Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurent Salanique,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Nous sommes en 1872, juste après la guerre de Sécession, au moment d'une nouvelle vague de colonisation de l'Ouest américain à l'ouest du Mississippi, celle qui va s'attaquer aux derniers Indiens Comanches qui résistent encore. Au début de l'album, on se dit que tous les ingrédients d'un bon vieux western sont réunis, sauf qu'il s'agit d'un western singulier dont les auteurs s'amusent à détourner les codes. Chaque personnage a quelque chose à cacher. Et le lecteur se retrouve pris comme au lasso et traîné dans les méandres d'une histoire déroutante, envoûtante, sensible, mystérieuse, matinée de fantastique et qui ébranle aussi bien des idées reçues. L'odeur des garçons affamés, dessin de Frederick Peters, scénario de notre invité Louis Fang, est paru chez Casterman et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Louis Fang.
Bonjour.
C'est l'histoire d'un trio improbable en fait. Alors on va présenter les trois personnages principaux pour commencer. On va pas trop en dire parce que comme je le disais, chacun a un secret et a toute une série de coups de théâtre qui rythment l'évolution de l'album. Alors le chef pour commencer, il s'appelle Stingley, il est ingénieur, c'est un ambitieux, hein, hâbleur, une grande gueule.
C'est le chef de l'expédition. Comme dans toutes ces expéditions d'exploration de l'époque, hein, il a une ambition scientifique, hein, de recensement des terres, des hommes qui habitent là, en l'occurrence les Comanches. Et on sent, oui, chez lui, une espèce de curiosité un peu trop poussée, on va dire.
Oui, un peu un homme sans foi ni loi qui, pour pouvoir atteindre ses objectifs, est prêt à tout.
C'est pas un humaniste, ça on le découvre progressivement. Déjà, il a des manies un peu bizarres, comme de se promener le sexe à l'air, en pleine nature. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Malgré toute son érudition et toute son intelligence, on sent qu'il y a une forme de folie chez lui. Et c'est quelqu'un qui met très vite mal à l'aise, en fait.
Alors, il y a deux compagnons avec lui qui sont très, très différents. Oscar et Milton. Alors, Oscar, c'est Oscar Forrest, c'est un photographe. Et alors, lui, c'est très étonnant parce que rien qu'à sa tenue, déjà, dès la première case où il apparaît dans l'album, on se demande ce qu'il fait là, quoi. Il a l'air totalement exotique dans ce décor de Far West.
Alors ça c'est le premier élément qui casse, hein, le code du western, c'est-à-dire que le personnage principal n'est pas du tout un cow-boy, c'est un dandy de la vieille Europe, un dandy irlandais, et en plus il est homosexuel.
Oui, il est efféminé et il est photographe. Alors c'est important parce que on a peut-être tendance à l'oublier aujourd'hui, mais la photographie a joué un rôle très important dans la colonisation des terres de l'Ouest, hein, juste après la guerre de Sécession, la période où se passe l'histoire.
Oui, il y avait des missions photographiques qui étaient organisées par le gouvernement américain et qui, voilà, recensaient des vues de paysages grandioses de l'Ouest, hein, et c'était censé servir de propagande cachée, comme ça, pour donner envie aux nouveaux colons de s'installer un petit peu plus loin vers l'Ouest. Hein.
Voilà, donc la raison pour laquelle il se trouve effectivement dans ce décor qui lui va pas du tout. Et puis il y a le boy, qui s'appelle Milton, qui est blond, qui est très très beau, et qui est chargé de l'intendance. Hein. Donc c'est lui qui fait tourner un petit peu la machine, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son patron Stingley le méprise, le traite vraiment comme un valet, quoi.
Oui, là c'est un peu la lutte des classes reproduite dans ce huis clos-là. Milton, je l'ai voulu très insolent, très très beau. Enfin, je me suis beaucoup inspirée sur son côté androgyne de Tadzio dans Mort à Venise. Et c'est vraiment le petit éphèbe insolent qui drague ouvertement Oscar.
Oui, voilà. Et Oscar est un petit peu intéressé par Milton. On s'en rend compte quand même assez vite. On est au page 32 de l'album. Milton donc s'affaire et se fait réprimander par son patron Stingley. Et Oscar va se mêler à la conversation.
Que fais-tu? Personne ne t'a donné l'ordre de replier le campement.
On doit partir, vite!
Que signifie cette mascarade? Réponds-moi!
Mais que se passe-t-il?
Quelque chose va arriver, quelque chose d'énorme, faut partir d'ici!
Monsieur Stingley, je pense qu'il faut écouter ce gamin.
C'est ridicule! Céder la conduite de l'expédition aux subalternes? Nom de...
Plus une seconde à perdre!
Ya! Par là, en hauteur!
Il était moins une. Phénomène rarissime. J'avais jamais vu autant de mustangs à la fois.
En tout cas, sans toi, nous ne...
Oui, c'est étonnant, n'est-ce pas? L'instinct des gosses de ferme. Une sorte de sixième sens animal qui tient lieu d'intelligence.
La prochaine fois, mon instinct animal me dira de déguerpir seul.
Voilà, hein, peut-être un peu plus malin qu'on ne le pensait au début, hein, ce personnage de Milton, Louis Fang, c'est une des très nombreuses surprises, hein, de cet album. Là, rien qu'à l'oreille, on imagine la scène avec ses chevaux comme ça, déboulés entre ces deux pitons rocheux, la scène dessinée par Peter, c'est absolument magnifique. C'est vrai que les chevaux ont joué aussi un rôle majeur dans la résistance des Indiens Comanches, qui jouent un rôle majeurs sont les victimes désignées, en tout cas au début de l'album, et vous nous emmenez aussi à la découverte de cette culture comanche dans laquelle les chevaux jouent vraiment un rôle majeur.
Ce qui est fascinant sur l'histoire des chevaux aux États-Unis, c'est que c'est une importation. C'est-à-dire que naturellement, il n'y avait pas de chevaux sur le continent américain et que les chevaux ont été apportés par les Espagnols. Et c'était leur arme de guerre pour conquérir, dominer les indigènes de l'époque.
C'était très très bons cavaliers, les Comanches.
Les Comanches. Alors, avant l'arrivée des chevaux, les Comanches étaient, disons, une ethnie pas très évoluée, on va dire, en termes de technique, parmi tous les groupes d'Indiens, d'Amérindiens. Et en fait, l'arrivée du cheval on fait qu'ils ont vraiment gagné en puissance guerrière, en puissance même marchande, commerciale, parce que ce sont eux qui ont maîtrisé le mieux la technique du cheval, l'élevage des chevaux, et puis surtout la technique de la guerre à cheval.
Oui, alors c'est un très beau cadeau que vous avez fait à Peters, hein, finalement, parce que dessiner un cheval, quand même, pour un dessinateur, j'imagine qu'il a vraiment dû s'amuser. C'est aussi un travail magnifique en raison des ombres et des couleurs, hein, dont il a parsemé l'album, parce qu'il y a des scènes de jour, des scènes de crépuscule, d'aube, de nuit, donc évidemment la lumière change, et ça donne des pages avec des tonalités, avec des coloris totalement différents. On a vraiment l'impression de changer de chapitre en même temps que le soleil, finalement, hein. Il y a vraiment une dimension comme ça, presque magique des décors dans lesquels vos personnages évoluent.
Oui, on a voulu beaucoup de sensualité pour cette histoire-là. Un certain réalisme, mais qui tend vers le fantastique assez rapidement. Il y a un magnifique travail des couleurs de la part de Frédéric, hein, qui a d'abord la couleur a un rôle narratif, hein, permet de marquer le temps, de changer, de créer des ellipses et de marquer aussi les changements de lieu. Et puis il injecte aussi du fantastique en mettant du rouge dans le ciel, de l'orange, en créant comme ça des effets de lumière assez inédits pour les westerns.
Et le fantastique se retrouve d'ailleurs aussi dans le scénario. Alors on va pas tout dire, mais enfin on va dire que déjà, sans aller jusqu'au fantastique, déjà le rêve joue quand même un rôle important dans l'histoire. Pourquoi est-ce que vous avez ajouté cette dimension-là, qui pour le coup semble quand même assez loin du monde du western, la dimension fantastique voire surnaturelle?
Parce que ça fait partie de mes histoires, moi, dans tous mes livres, toutes mes histoires, il y a une part de fantastique. Moi, je suis née au Laos, hein, mon père est chinois, ma mère vietnamienne, et puis voilà, en Asie, on a un rapport au monde invisible, hein, qui est plus, disons, plus ambigu, plus poreux qu'ici en Europe, hein, où les choses sont plus rationnelles. Moi, j'ai grandi avec des histoires de fantômes que mon père me racontait. Mon père dit avoir rencontré vraiment des fantômes, les avoir touchés, leur avoir parlé. Et puis moi, j'ai pris ces histoires-là comme étant vraies, enfin, en tout cas, vraies pour lui. Ce qui fait que j'ai un rapport au réel qui est assez ambigu. Par ailleurs, j'ai une culture européenne, donc rationnelle. Et j'ai, un rapport au monde invisible qui est assez ambigu. Oui. Je ne sais pas si j'y crois vraiment ou si je n'y crois pas. En tout cas, j'aime beaucoup ces histoires-là et j'aime beaucoup cette dimension-là.
Y compris transposer ces histoires-là dans un monde qui, a priori, est très très éloigné de ça, comme celui de l'Ouest américain. Alors qu'au contraire, justement, le mythe du western, c'est aussi le mythe des colons, c'est aussi le mythe de la foi protestante aussi. On est très très loin du fantastique et du surnaturel, on va dire, oriental, non ?
Du fantastique oriental, oui, mais sinon, enfin, il y a toujours une dimension très religieuse, hein, sous-jacente,
parfois,
dans le western, la conquête de l'Ouest. Mais nous, ce qu'on a voulu faire avec Frédéric, c'était de prendre un genre, le western, et de l'interroger d'abord, de savoir qu'est-ce qui fait l'essence du western, c'est quoi les codes. Est-ce que mettre un cow-boy, des chevaux, des revolvers et mettre des grands paysages, est-ce que ça suffit pour faire un western? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est ça la base. Et ensuite, ce qui est pratique avec le western, c'est que tout le monde sait ce que c'est. Donc à partir de ce moment-là, on peut l'emmener ailleurs. Et lui, il fait ça sur ses livres déjà, d'interroger l'icône. Il a fait ça pour la science-fiction avec Lupus et Ama. Moi, je l'ai fait de mon côté avec les histoires de super-héros pour Prestige de l'uniforme ou le polar japonais avec Panorama. Donc voilà, nous, on voulait s'amuser avec ça, avec le western, et vraiment l'emmener ailleurs, casser les codes, mettre du fantastique, mettre des histoires d'homosexualité, de genre, de transgression. Pour nous, c'était beaucoup plus amusant que d'être dans une position de respect ou de servilité par rapport au genre.
Billy the Kid, I back anything you say. Billy the Kid, in spite of your death notice. Billy the Kid, I love you. I love you. Billy the Kid, in spite of your death notice. And there was a desert in the mouth of the river. There is honey in the groin.
Rodolphe Burger, Philippe Poirier, Billy the Kid sur RFI. Vous avez travaillé avec eux, Louis Fang. Ça vous dit quelque chose, évidemment, ces deux noms-là et cette musique. Alors racontez-nous, parce que c'est un projet qui finalement n'est pas très très éloigné de l'odeur des garçons affamés.
Oui, c'est un spectacle qui a été présenté au Festival Pulp à la Ferme du Buisson il y a 10 jours, qui s'appelle Billy the Kid, I Love You, et qui est un mélange de films, de musique et de dessins en direct.
Oui, ce qui prouve que décidément le western est vraiment un genre qui suscite énormément d'imaginaire, d'imagination chez vous.
Là, c'est un peu un hasard de calendrier,
oui.
En creusant un petit peu, oui, en effet, il y a quelque chose qui me fascine dans le western. C'est que, a priori, c'est quelque chose qui est très loin de moi. C'est pas le même continent. Enfin, c'est très très loin de moi. Et en même temps, ça brasse des thématiques. Des thèmes qui sont extrêmement intimes pour moi, c'est-à-dire la colonisation, l'exil, le génocide, la question de l'occidentalité, sont des problématiques voilà, qui me poursuivent.
Oui, et vous aimez bien aussi, et c'est ce qu'on voit à travers ce spectacle à la Ferme du Buisson, mélanger les modes d'expression. Donc vous dessinez, vous peignez aussi, hein, d'ailleurs.
Pas du tout.
Pas du tout, vous voyez, je suis mal renseigné. Voilà. Faites un peu de théâtre.
J'écris.
Vous écrivez pour le théâtre.
Oui.
Voilà, c'est ça. Et donc il y a aussi la musique là, voilà, et le cinéma, parce qu'on se dit le western, c'est quand même aussi et peut-être même d'abord un genre cinématographique. Vous aviez en commençant cet album, et c'est une question que j'aurais bien aimé aussi poser à Frédéric Peters, vous aviez des images de western en tête?
Bah, pas vraiment, en fait. J'avais surtout les photos de ces fameuses expéditions photographiques en tête, mais pas d'images de western précis, ou plutôt plein d'images en même temps. Moi, je suis de la génération de la dernière séance.
Ah oui.
On regardait ça toutes les semaines. Il y avait énormément de western de l'âge d'or hollywoodien.
Oui, donc plutôt John Ford ou Gary Cooper que Sergio Leone et Clint Eastwood.
D'abord, c'était plutôt John Ford et John Wayne et Gary Cooper. Mon père adorait ça, les westerns, donc on les regardait sur VHS ensuite. Donc j'étais vraiment imprégnée de tout cet univers-là, mais sans érudition, c'est-à-dire sans classification des films. Je connais pas forcément les titres ni les noms des réalisateurs et tout ça. Mais par contre, j'ai toute cette imagerie-là.
Alors, on a passé Billy the Kid, hein, évidemment, mais il y a un autre personnage auquel on est obligé de penser en lisant l'album, c'est Calamity Jane, puisque donc dans l'odeur des garçons affamés, il y a un personnage qui lui ressemble un tout petit peu, d'assez loin quand même, je vous l'accorde, mais enfin quand même, et vous en avez dit un tout petit mot tout à l'heure avant la pause, il y a cette question de l'homosexualité, il y a la question du genre, qui est une question qui vous intéresse de très près, là encore dans un monde où on se demande si après tout, c'est une question qui se pose tant que ça, parce que les valeurs du western, dans la tête de beaucoup de gens, j'imagine que ce sont d'abord des valeurs viriles.
Oui, mais c'est ça que j'aime chez le western aussi, c'est que c'est une histoire de la virilité en milieu hostile.
Et pourquoi en milieu hostile ?
C'est souvent dans les grands paysages sauvages, hein, ou alors dans des villes inhospitalières et dans des saloons où on se bagarre beaucoup. Donc c'est un milieu assez hostile.
Oui, certes.
Et ce sont des histoires d'hommes, enfin, dans les westerns classiques.
Les femmes font la cuisine, quoi, en général.
Elles ont des rôles vraiment subalternes, elles sont en état de faiblesse, donc elles sont pas du tout mises en valeur, donc c'est l'hétérosexualité, ou l'homosexualité non assumée. Donc il y a une certaine image de la virilité que moi j'ai voulu interroger et aussi, faire déraper. Dans l'histoire.
Oui, alors on va s'arrêter là parce que justement, faut pas trop déraper parce que vraiment, encore une fois, il y a tellement de secrets et tellement de surprises dans l'album qu'il faut pas en dire trop. Mais votre idée à la base et au-delà du cas du western Louis Fang, c'est quoi? C'est de dire au lecteur, il faut se méfier des apparences, il faut se méfier des stéréotypes et tout ce qu'on vous raconte finalement depuis plusieurs siècles maintenant, hein, jusque les westerns, depuis au moins un bon siècle en tout cas, c'est plus compliqué que ça et ça s'est sûrement pas passé comme ça.
Il y a de ça, oui, mais je crois que vraiment le thème central du livre, c'est la frontière, ou plutôt le glissement des frontières.
Le mythe de la frontière qui est constitutif de l'histoire des États-Unis.
Entre autres, oui, et puis cette histoire de genre aussi, un genre c'est quelque chose qu'on a délimité, c'est un territoire dont on connaît a priori les contours. Dans l'histoire, les questions de la frontière entre, déjà une frontière géographique, et puis la frontière culturelle entre le monde dit barbare et le monde civilisé, entre guillemets, entre le masculin et le féminin, entre le réel et le fantastique aussi. Et puis, ces frontières, elles sont arbitraires, hein, au départ. Quand on se retrouve dans des grands paysages où tout est ouvert, où il y a, comme on dit, une béance vertigineuse, et ben tous ces murs-là qu'on a érigés dans la civilisation connue, ils tombent. Et alors que se passe-t-il? C'est ça que je voulais voir, hein, essayer de raconter. Que se passe-t-il quand les frontières bougent?
Voilà, donc la réponse en lisant L'odeur des garçons affamés de Louis Fang et Frédéric Peters chez Casterman. On va marquer une courte pause pour les infos et on va continuer à parler bande dessinée dans la deuxième partie de VMDN avec le lancement de la revue Pandora, nouvelle revue lancée également par Casterman. Le numéro 1 est sorti en librairie. À l'intérieur, 27 histoires courtes, dont celle de notre second invité, le dessinateur et scénariste Mathias Lehmann. Il sera avec nous juste après la pause et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Toujours avec la scénariste de bande dessinée Louis Fang, son dernier album L'odeur des garçons affamés est paru chez Casterman avec des dessins signés Frédéric Peters. Et Mathieu Lehmann nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur, vous faites de la bande dessinée, vous êtes aussi illustrateur de presse et vous faites partie des 36 auteurs dont les histoires figurent dans le premier numéro de Pandora. Vous êtes venu nous présenter cette revue lancée par les éditions Casterman, revue semestrielle qui va donc paraître, si tout va bien, deux fois par an, j'ai bien calculé.
Oui, je crois que le prochain c'est pour octobre. J'avoue que je suis pas.
Bon, octobre, a priori.
Je
voilà.
Pense que c'est ça.
Voilà. Donc vendu uniquement en librairie. Alors c'est ce qu'on appelle un MOOC. Hein. C'est une sorte de d'hybride entre le magazine et le book. Donc le magazine et le livre. 264 pages au format bouquin. C'est comme ça qu'on dit. C'est une revue qui a été tirée à 14 000 exemplaires. Alors avant d'en dire davantage sur l'idée même d'une revue de bande dessinée, Mathias Lehmann, je vais peut-être me faire un petit instant l'avocat du diable. Est-ce que à l'heure d'Internet, à l'heure du livre électronique, on a encore besoin, réellement besoin, d'une revue papier?
Vous me posez la question à moi qui préfère les livres de manière générale, donc oui, moi je préfère avoir une revue papier. Après, est-ce que ça touche un grand public? Je sais pas. Finalement, quand on voit par exemple la revue dessinée, qui est une revue qui se vend bien, je pense, et qui fait parler d'elle, bah, l'impression c'est que oui, effectivement, ça intéresse les gens quand même d'avoir toujours une revue.
Donc il y a un marché d'après vous, mais c'est vrai que dans les années 80, il y avait un intérêt.
Oui.
Mais c'est vrai que dans les années 80, les kiosques débordaient de revues de bande dessinée, d'hebdomadaires même. Il y avait Tintin, Spirou, Picsou, bon, Fluide Glacial qui existe encore, mais il y avait Pilote, il y avait Charlie Mensuel, enfin, vous voyez. Ouais. Bon, voilà. Bon, vous étiez déjà à l'époque lecteur de ce genre de revues, vous alliez comme ça acheter chaque semaine ou chaque mois une revue de bande dessinée?
Ah oui, tout à fait. Moi, quand j'étais adolescent, je lisais Fluide Glacial régulièrement. Hein. Bah, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait À Suivre aussi.
Lancé par Casterman.
Oui, lancé par Casterman. Oui. Donc, c'était la dernière revue que Casterman a publiée. Moi, j'étais pas très fan, hein, j'avoue, de À Suivre. Hein. J'étais plus dans la BD d'humour, tout ça. Et après, il y a d'autres revues qui se sont succédées en kiosque. Il y a eu des moments, il y en avait plein. Je parle même pas de Métal Hurlant parce que moi c'est un peu antérieur, j'étais un peu jeune à l'époque de Métal Hurlant, mais en plus de Fluide Glacial, il y avait Le Psychopathe qui existe toujours, il y avait à un moment donné, il y avait la revue Jade aussi, il y avait les Requins Marteaux qui ont fait leur revue Ferraille, il y a plein de revues qui sont succédées, même récemment il y a une revue Argue qui est toujours mensuelle en kiosque. Hein,
c'est... Avec je ne sais combien de A hein, d'ailleurs.
Oui, titre. Avec trois, comme les andouillettes.
Voilà, exactement. Et vous, Louis Fang, vous étiez aussi, et peut-être vous êtes même toujours d'ailleurs, une lectrice de bande dessinée en revue, en papier, achetée comme ça au numéro?
Quand j'étais petite, oui, c'était les comics américains de super-héros.
D'accord, genre Strange,
Titan,
Titan, etc. C'est comme ça que vous avez découvert l'univers de la bande dessinée?
Oui, oui.
Donc avant d'acheter les albums, on découvre dans les revues.
Je pense que c'était plus dans la culture qu'on avait peut-être dans les années 80-90. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore très présent. On achète beaucoup.
Parce que là, de toute façon, Pandora s'adresse d'abord à un public d'adultes, pas du tout à un public d'enfants.
Je pense que
ça
s'adresse à un public d'adultes qui s'intéresse à la bande dessinée ou à une nouvelle forme de bande dessinée. Voilà.
J'ai envie de découvrir.
Voilà.
Alors, c'est vrai que vous l'avez dit vous-même à l'instant, Mathias Lehmann, hein, Casterman, donc le même éditeur avait lancé À Suivre en 78, donc une revue qui était basée, comme son titre l'indiquait, sur le principe des histoires à épisodes. Là, c'est exactement le contraire. Hein, c'est une revue qui s'est arrêtée en 97. C'est le contraire, puisque là, on est sur des récits courts, donc il n'y aura pas de suite de numéro à numéro. L'idée, c'est quoi, justement? C'est d'adapter un petit peu l'univers de la bande dessinée au rythme très effréné aujourd'hui de consommation, je lis, je jette, qui est celui du monde occidental actuel?
Ah bah, je pense pas que ce soit l'idée de Benoît Mouchard, l'éditeur.
Mais c'est vrai que tout le monde veut du court en ce moment. On veut du court à la télévision, on veut des formats courts à la radio, à la télé, on veut des petites vidéos de 30 secondes sur les réseaux sociaux, etc.
Moi je parlerais de nouvelles au même titre qu'il existe des nouvelles en littérature et puis après des romans, voilà, c'est ça. Maintenant on fait beaucoup de bandes dessinées de plus de 100 pages, etc. Effectivement, je crois qu'un début initiaux de la création de la revue, c'était aussi de répondre à une demande de certains auteurs. Il y a l'envie aussi de travailler sur le format de la nouvelle. Et il y a très peu de revues qui le proposent. Il existe beaucoup de revues, hein. Même il y a Cornelius qui publie une revue qui s'appelle Frankie et Nicole, enfin en alternance avec les requins marteaux. Et qui propose des récits courts aussi. Et pour les auteurs, je pense que c'est un exercice très intéressant de travailler sur le récit court. Et par ailleurs, je pense que pour le public, c'est une façon de découvrir plusieurs auteurs. Enfin, là, je sais plus combien il y en a. Vous m'avez dit
36, je crois.
Oui, 36. Donc oui. C'est pas mal aussi de découvrir le travail d'un auteur sur ce modèle-là.
Quoi. Oui, mais c'est vrai que les auteurs ont parfois, comme ça, en stock, si j'ose dire, Louis Fang, des récits extrêmement courts qu'ils n'arrivent pas à éditer et dont ils savent pas trop, finalement, quoi faire. C'est ce qu'explique Benoît Mouchard, qui est le patron de la BD chez Casterman, et qui dit, par exemple, moi, j'ai Bilal et Tardy, ils m'ont dit, justement, j'ai un petit scénario, là, ça fait juste quelques pages, mais on peut pas le publier comme ça.
Oui, j'imagine que ce sont des formats qui autorisent l'expérimentation, si on peut oser des choses sur des formats courts comme ça, et qui seront peut-être plus compliqués à mettre en place sur des longs récits. Et puis c'est des laboratoires, hein. Je pense que c'est une revue laboratoire aussi et un espace de liberté pour les auteurs.
Hein. Oui, alors c'est vrai que dans ce numéro-là, il n'y a pas Bilal, il n'y a pas Tardy, hein, pourtant peut-être dans le numéro 2, mais il y a quand même une distribution, comme on dit dans le monde du cinéma, Mathias Lehmann, qui est quand même extrêmement prestigieuse et extrêmement variée en France et à l'international d'ailleurs.
Ah oui, par exemple il y a Otomo, donc c'est quand même... un auteur culte,
Art Spiegelman.
Art Spiegelman, ouais, Art Spiegelman, il a fait qu'une page quand même. Mais bon,
oui,
ça.
Ouais, c'est déjà ça quand même. Attendez, voilà. Il n'y a pas beaucoup de récits en une page d'ailleurs, hein. Comme si finalement la mode, vous parliez de la BD d'humour tout à l'heure, comme si la mode des récits en une planche, etc., était un petit peu passée, quoi. On est dans le court, mais pas dans le trop court.
Ben c'est ça, mais c'est en fait l'absence de support aussi qui fait que les gens ne pratiquent pas ce genre de choses, hein.
Puis le récit en une page, c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile, hein,
oui, de tenir les gags dans des journaux comme Spirou ou comme Tintin, il y en avait des gags en une planche, il y en avait quasiment toutes les semaines.
Toutes les semaines,
les Boulet Bill, hein, les Robin Dubois, les Léonard,
oui.
Etc.
Mais c'est un art, le gag en une page ou l'histoire, oui, en une planche, pour qu'elle soit vraiment bien, c'est vraiment un art difficile.
Oui, plus que... faire une petite histoire dans 5-6 planches, là, c'est un format finalement facile. C'est facile la BD.
Il y a un art de la concision et de la structure en une planche qui est vraiment très spécial, hein, vraiment.
Like a woman, yes, and she makes love just like a woman. Oh, and she aches just like a woman, but she breathes just like a little girl. Queen Mary. has to guess. Baby can't be blessed till she finally sees that she is like all the rest, with her fog, her amphetamines, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yeah, she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl.
Just like a woman. Jeff Buckley qui reprend Bob Dylan sur RFI, extrait de son deuxième album posthume You and I qui vient de sortir chez Columbia, avec à la clé un clip qui est une bande dessinée interactive. À chaque fois, le spectateur internaute peut en fait cliquer sur des cases et modifier la trajectoire de l'histoire du clip. Il peut même aussi rajouter des effets musicaux et modifier la chanson. Voilà, VMDN avec Louis Fang qui publie L'odeur des garçons affamés chez Casterman, avec des dessins de Frédéric Peters. C'est Mathias Lehmann pour évoquer la nouvelle revue de bande dessinée semestrielle lancée toujours par Casterman, Pandora. Alors pourquoi ce titre, Mathias Lehmann ?
Alors, donc c'est un choix du directeur éditorial, hein, Benoît Mouchard. Je pense qu'il voulait faire référence au mythe de la boîte de Pandore. Et puis aussi, c'est un personnage dans Corto Maltese, c'est ça. Moi, je suis pas un très gros lecteur du Goparate, alors je vais pas prendre de risque.
Voilà, donc c'est une femme évidemment extrêmement belle, et ouais. Corto Maltese succombe un tout petit peu à son charme. C'est dans l'album La Ballade de la Mer Salée, qui est l'un des albums mythiques de Corto D'accord. Maltese et qui était numéro un, je crois, dans le catalogue de BD adultes de Casterman. C'est le premier qui a été publié à ce moment-là, à l'époque. En tout cas, à l'intérieur de cette revue Pandora, Mathias Lehmann, il y a donc 27 récits courts, 36 auteurs, mais 27 récits courts, dont le vôtre, qui fait 6 pages. Il s'intitule « La fugue de Séraphin Chanu ». Alors, vous l'avez écrit et dessiné directement pour Pandora.
Il en fait 8, d'ailleurs.
Il en fait 8, vous voyez, je suis très très mauvais en chiffres.
C'est
voyez.
Pas grave. C'est
voilà,
pas grave.
Et donc vous l'avez écrit et dessiné spécialement pour la revue, ou bien l'histoire traînait déjà dans vos tiroirs ou dans votre cerveau ?
Ah non, je l'ai écrit spécialement pour la revue, mais disons que c'est dans la continuité d'histoires qui sont un peu inspirées de mon enfance et que j'ai commencé, que j'ai un peu amorcé mon dernier livre, La Favorite, et ça reste dans une époque comme ça, un peu années 80, au fin fond de la Seine-et-Marne, tout ça, donc voilà, dans une ambiance générale, mais en tout cas je l'ai écrit vraiment pour Pandora.
Donc c'était une commande de Pandora. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit chez Casterman, ils vous ont cadré, j'imagine, pour cette commande, ou bien ils vous ont dit un récit court, point.
Non, en fait, ce que m'a dit Benoît, c'est qu'il fallait faire un récit court entre 5 et, alors je sais plus combien de pages, 15 pages, hein, je crois même qu'il y en a qui sont de 20 pages, hein, je suis pas sûr dans ce numéro-là, non, mais peut-être dans le prochain. Et bah voilà, l'idée c'était de faire un récit qui se suffisait à lui-même, quoi, enfin qui n'appelle pas de suite et qui est une nouvelle qu'on peut lire indépendamment d'autres choses, quoi.
Alors vous avez un style bien à vous, hein, évidemment, Mathias Lehmann. Alors bon, c'est compliqué de décrire à la radio, enfin vous dessinez en noir et blanc avec des traits noirs, hein, un peu en hachure. On n'est pas très très loin de la gravure.
Non, mais en fait, moi, j'ai fait beaucoup, notamment, vous parliez d'illustration presse tout à l'heure. Quand je fais de l'illustration, je travaille à la carte à gratter. Donc ça, c'est une technique très proche de la gravure, en fait.
Alors, comment ça marche,
la carte à gratter, donc c'est un carton noir. On gratte avec un cutter ou avec une plume, et puis ça apparaît en blanc. Donc, en fait, on dessine par soustraction, en quelque sorte. Ce qui fait qu'on fait souvent des petits traits, et moi, je suis très inspiré par la gravure sur bois fin 19e. Donc, il y a ce côté, effectivement, gravure qui apparaît. Et là, pour Pandora, j'ai travaillé à la plume, hein, très classiquement. Mais il y a cette approche de la carte à gratter qui reste présente.
Que l'on retrouve. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez abordé justement cette technique graphique de la carte à gratter ? C'est pas si courant que ça quand même dans le monde de la bande dessinée.
Non, bah moi en fait j'avais fait de la linogravure quand j'étais ado, puis un jour j'ai essayé la carte à gratter, c'est, ça me semblait plus simple et ça ressemblait, donc je me suis dit super. Et puis après, j'ai découvert des auteurs qui travaillaient sur carte à gratter, il y en a très peu. Mais Art Spiegelman en a fait, Thomas Sott, qui est un peu le roi en la matière, et puis Marc Caro aussi dans les années 80, tout ça. Ouais. Et ça m'a donné envie de... Voilà, de creuser.
De poursuivre dans cette voie. Ouais. Alors ça donne en tout cas un caractère très très fort et un peu dramatique aussi à l'histoire, un côté très noir aussi. Vous dessinez d'ailleurs souvent des histoires étranges, des contes, des sorcelleries, c'est peut-être que ça va plaire à Lou Bifang, et c'est vrai que c'est une technique qui a l'air assez adaptée à ce genre de récit. Là, pour Pandora, on est quand même dans un récit a priori très très réaliste. Ça se passe dans une école, grande banlieue parisienne, m'avez-vous dit
Ouais, lointaine banlieue... Oui, c'est plutôt un contexte réaliste. D'ailleurs, c'est inspiré de plusieurs petits morceaux d'histoire que j'ai vécu, enfin que pas moi j'ai vécu, mais que j'ai observé quand j'étais petit. Et donc ouais, c'est une imbrication de choses comme ça. Après, je pense qu'il y a toujours... moi, j'ai pas une approche du fantastique, mais disons qu'il y a la possibilité du fantastique dans mes histoires.
Oui, il n'est pas très loin. Donc là, il serait caché sous le pupitre, le fantastique, parce que ça se passe dans une école primaire et la narratrice est une des élèves de cette école qui s'appelle Mélissa, une élève peut-être un peu plus éveillée, plus attentive, plus curieuse que les autres.
Oui, elle est un peu plus mature, elle observe un peu ce qui se passe et puis elle est pas complètement dupe des choses qui se disent et qui se font.
Et elle s'intéresse de très très près à ses camarades de classe et notamment au fameux Séraphin Chanu. Laurence Alanic, notre réalisatrice, a mis en onde un extrait de votre récit.
En arrivant au collège, Séraphin chercha à se faire remarquer en sniffant du gluant pour Tipex qu'il étalait sur la manche de son blouson. Il parvint à attirer l'attention de deux brutes de troisième qui décidèrent de le racketter quasi quotidiennement.
Tu es sûre de n'avoir rien vu, Mélissa ? Séraphin prétend que tu étais témoin de la scène.
Si, mais selon moi, il voulait juste plaisanter.
Ouais, je ne le crois pas. Viens avec nous, Minizob. Vas-y, montre-leur. Fais-le ou on te casse les dents.
L'exhibitionnisme fut une véritable révélation pour Séraphin. Il le pratiqua avec enthousiasme dans le hall du collège, dans la cour, voire en classe. Durant deux semaines, Séraphin et son pénis connurent leur heure de gloire, avant de sombrer à nouveau dans l'oubli. Madame Guivarche, il est malade, Séraphin ? Ça fait 3 jours qu'il est absent.
Ah oui, tiens, j'ai oublié de le cocher sur la feuille d'appel. Les enfants, Séraphin a disparu. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas rentré chez lui. Sa mère a prévenu la police. Il s'agirait d'une fugue. Bien, sortez vos livres.
Bon, il est quand même très bizarre, hein, ce Séraphin Chanu, Mathias Lehmann. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, déjà, physiquement parlant, puisqu'on est à la radio ?
Eh ben, Séraphin, il a une drôle de tête, déjà. Il a un nez un peu pointé vers le ciel. Il a des cheveux un peu épars au-dessus de la tête, qui ne recouvrent pas toute sa tête, d'ailleurs. Et il a des petits soubresauts nerveux comme ça. Il se met à crier, à pousser des cris et puis à trembler.
C'est une sorte de toc.
Oui, c'est une sorte de c'est un toc. Ça lui prend de temps en temps, mais c'est surtout dans les moments de grosse excitation comme ça où tout d'un coup il peut plus contrôler sa joie ou sa gêne. On ne sait pas très bien. Et bon, d'ailleurs, j'ai eu un camarade de classe un peu comme ça quand j'étais.
Oui,
quand j'étais
mais c'est vrai que ça sent le vécu ce récit-là, la scène des toilettes là qu'on a mis en onde. Est-ce que le petit Mathias Lehmann a été confronté à ce genre de petite vexation ?
Non, pas moi, mais par contre, il y a un autre petit camarade de collège qui était forcé par des gars, des espèces de brutes à s'exhiber aussi.
Oui, la cruauté des gamins, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un filon extraordinaire pour la bande dessinée, d'ailleurs, d'une façon générale.
Ah oui, c'est sans fin, j'ai envie de dire. Oui, non, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en plus, le collège, c'est un peu le lieu de toutes les tortures et de toutes les... Voilà, les confrontations.
Oui, l'école, c'est un bon décor de bande dessinée, Louis Fang. On est très très loin du western, là, pour le coup. On est vraiment dans le quotidien, on n'est pas du tout dans le rêve.
Même si c'est aussi un territoire hostile.
Ah, c'est vrai, oui. Il y a un territoire d'apprentissage aussi, vous voyez. Bon, et puis il y a donc ce nom. On va pas évidemment en dire beaucoup plus sur l'histoire non plus, parce qu'elle est très courte. Elle se termine de façon d'ailleurs extrêmement surprenante, là encore. Mais juste un mot du nom du personnage. Séraphin Chanu. Alors c'est drôle, parce que c'est vraiment un nom de bande dessinée, ça, Séraphin Chanu.
Oui. Mais alors, je dois dire que...
Vous l'avez pas choisi au hasard.
Non, je l'ai pas choisi au hasard, et je sais pas si je peux vraiment dire pourquoi je l'ai choisi.
Ah bah si, je vous pose la question.
Séraphin
Chanu existe-t-il vraiment?
Il s'appelle pas comme ça, mais c'est pas loin. Donc, j'en dirai pas plus.
Bon, d'accord. Mais en tout cas, ça fait vraiment nom de bande dessinée, quoi. C'est important, l'identité des
personnages.
Je pense qu'on
pense à Séraphin Lampion, quoi.
Voilà, évidemment. Donc on a tous en tête le personnage d'assureur, un peu, comment dirais-je, enfin, qu'on n'arrive pas
à se débarrasser.
À se débarrasser de lui, voilà, dans Tintin, évidemment, d'Hergé. Alors, on va pas raconter les raisons de la fugue et ce qu'il adviendra, évidemment, de Séraphin Chanu. Je laisse évidemment les auditeurs s'en référer à Pandora. Alors, Louis Fang, vous êtes auteur Casterman, vous n'êtes pas dans le premier numéro de Pandora. Est-ce que l'exercice du récit court, qui est là pour le coup vraiment très très éloigné de ce que vous avez fait dans L'odeur des garçons affamés, vous intéresse? Est-ce que si Benoît Mouchard vous appelle et vous dit on veut un récit de toi dans Pandora numéro 2 ou numéro 3, vous y allez?
Oui, c'est très tentant, mais justement, ce serait l'occasion d'un petit laboratoire, justement, de, par exemple, travailler avec un auteur avec qui j'ai jamais travaillé, avec qui j'ai envie d'essayer quelque chose que j'ai pas encore fait.
D'accord, et vous avez comme ça, là, déjà, en tête, une petite idée de petite histoire courte? Vous avez des petits scénarios qui traînent?
Absolument pas.
Absolument pas, donc non. Ce sera le grand saut dans l'inconnu.
Oui.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et avant ce grand saut dans l'inconnu, on va terminer cette émission par un petit écart dans le monde de la danse avec Abou Lagraa, le chorégraphe et directeur artistique de la compagnie La Baraka, et depuis cette année ambassadeur de Dream Up, un programme financé par la fondation BNP Paribas, un programme qui propose des activités artistiques aux jeunes des quartiers défavorisés dans 26 pays à travers le monde. Première destination, Sidi Moumen, un quartier difficile de la banlieue est de Casablanca au Maroc, où des djihadistes ont d'ailleurs grandi, un quartier en pleine restructuration aujourd'hui, dans lequel Abou Lagraa a animé un atelier de danse pendant une semaine, sous les yeux de notre reporter Alice Milo.
Allez, vous prenez tout l'espace, s'il vous plaît. Hein. Et tête, 1, 2, 3. Tête, 1, 2. Encore, juste ça. 1, 2. Ok, stop, c'est bien, c'est bien. C'est bien tout le monde, hein. Bravo. Hein. Allez, on recommence.
C'est des ateliers où il y a de l'énergie hip-hop, on peut dire ça. C'est-à-dire que j'ai dû m'adapter. J'allais pas leur faire un truc compliqué. Je voulais que ce soit ludique, une façon d'entrer dans la danse qui soit le plus facile et qui leur parle à eux, à cette génération-là. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans cette démarche-là et qui est en rapport avec ce que je fais, c'est d'aller toujours dans des lieux, dans des endroits, dans des pays où la culture a du mal à rentrer dans les maisons, dans les foyers. Et là, c'est vrai qu'en plus, au Maroc, on est quand même dans une culture musulmane où il est assez compliqué des fois de faire comprendre aux gens que de faire de la danse peut vraiment décloisonner, ouvrir des portes. Et moi-même, d'ailleurs, je suis d'origine algérienne, même si je suis né en France, que moi je viens d'un milieu défavorisé. Et c'est vrai que la danse, en tout cas à moi, m'a apporté énormément, c'est-à-dire une personnalité, se forger un caractère, apprendre à s'exprimer, pas que par la danse, mais aussi verbalement. Voilà, donc moi, grâce à la danse, je suis arrivé à en faire un métier, à sortir de ma condition sociale aussi. J'ai eu finalement un parcours classique, puisque je suis allé au conservatoire supérieur pendant 4 ans. J'ai commencé à 16 ans la danse, assez tard. J'ai travaillé comme un fou, parce que grâce à la danse, j'arrive à exister, à mettre du sens à ma vie.
Voilà. Et bassin, bassin. Et wam pam pam, wam pam pam. Pam. Comme les mouvements aisés.
Il y a quelque chose d'assez important, c'est de dire aussi que je suis musulman et dire que c'est tout à fait possible aujourd'hui et depuis longtemps d'être musulman, de l'affirmer et d'être danseur, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer avec son corps. C'est pas parce qu'on est musulman que forcément la danse est quelque chose qui est interdit, pas du tout, bien au contraire. Voilà, il n'y a jamais quelque chose de vulgaire avec ce qu'on fait, c'est juste que Dieu nous a donné un corps et il est là pour s'exprimer, voilà. Bah oui, moi j'ai caché à mon papa que je faisais de la danse. Ça a été compliqué pour lui de comprendre qu'en fait, j'allais devenir danseur et m'exprimer avec mon corps. Ce qu'il a vu, mon père, en fait, quand il venait voir mes spectacles, c'était qu'il voyait le labeur, hein, c'est-à-dire le travail difficile, la physicalité. En fait, ce que j'ai envie de dire à ces enfants ici, même si c'est très court dans le temps, c'est peut-être déceler quelques pépites comme ça, et il y en a dans ce groupe, ils sont 25, et j'ai déjà décelé 5-6 personnes qui, à mon avis, ont beaucoup de talent et qui pourraient en faire leur métier. Et c'est juste de leur dire, voilà, j'y suis arrivé, tu peux aussi y arriver, quoi. Je veux juste qu'ils continuent à rêver.
Allez, c'est parti avec la musique. Tout de suite, ça part, hein, s'il vous plaît. Et beaucoup d'énergie, s'il vous plaît, hein.
Reportage d'Alice Milo pour VMDN. Il me reste à remercier nos deux invités. Merci beaucoup, Louis Fang, d'avoir été avec nous. L'odeur des garçons affamés de Louis Fang avec Frédéric Peters, c'est édité, rappelons-le, par Casterman, de même que cette revue Pandora. Merci également à vous, Mathias Lehmann.
Merci à vous.
Demain, musique dans Vous m'en direz des nouvelles avec Cléopatra. C'est le deuxième album des Lumineurs, le groupe américain qui vient de sortir chez Capitol Records. Dans un instant, l'info de retour sur RFI. À demain.